René Leys. « 15 octobre 1911. Il faut absolument que je le joigne. Il lui faudra s'expliquer et me dire une bonne fois si les impériaux, ses amis, sont des fous à honorer comme tels et préparent une chute en beauté, ou bien s'ils en ont assez de l'Empire et s'apprêtent à démissionner en échange d'une rente ferme. Ou mieux, si l'Empire et le palais tout entier ne sont décidément pas un rêve d'historien. Avec tout ce que je viens d'écrire à ce sujet, fumée dansant sur une écume de non-sens. Oui, il faut absolument que je le voie. Si j'avais en poche le précieux mouchoir rose, mot de passe et passe un peu partout, je me mettrais, avec cette baguette de sourcier, en quête de René Leys, dont vraiment l'ubiquité m'effare. Quand j'ai besoin de lui, comme aujourd'hui, où est-il? Certainement point au gîte paternel. Non plus à son école, fermée au premier jour de trouble par défaut de ses élèves, fils de noble, passés en grand nombre à la Révolution. Il n'est même pas à Tiananmen-Wai, du moins dans les plus honorables maisons connues de lui et moi. J'en arrive. Il est peut-être au palais, dans le palais, sous le palais, nulle part, évaporé, subtilisé, comme un mage qui en a dit assez et dont les jours sont clos. Je m'attends à quelque chose d'insolite. Non. Rentrant chez moi, je le trouve paisiblement chez moi. Il est calme et quotidien. Je n'y tiens plus. « Vous en faites de belles au palais !» Il prend un air innocent. « Vous savez qui vient d'être nommé vice-roi des deux Houx, en pleine révolte ?»« Je vous ai dit que le ministre de la guerre est parti. »« Un chou blanc. Votre ministre n'arrivera jamais. »« On lui donne un terrible collègue. »« Son maintien, son silence, son attitude réservée commencent à me jeter dans l'embarras. » On vient de nommer, et je lui mets sous le nez, avec une vigueur excessive, le décret promulgué aujourd'hui par le régent, nommant Yuan Chekai, exilé, retiré dans ses terres, vice-roi des provinces révoltées du centre, généralissime des armées de terre et de mer, soutien de la dynastie menacée. J'insiste. Vous êtes fou! Comment le régent peut-il supposer que l'homme à moitié décapité par lui, il y a 3 ans, va revenir à son service? Et le vieux renard n'est point parti en disgrâce sans préparer son retour. Mais quel retour! Il a ses soldats, 5 ou 6 000 onanais, sa garde bien armée, bien payée, bien exercée. Il a toute sa province autour de lui, le Honan, l'essentiel, fleur du milieu. Mais René Leys me ramène à une moins poétique évaluation des faits. Assez négligemment, il ajoute « La nomination Yuan ? Mais c'est moi qui l'ai provoquée. » Il me regarde. C'était le meilleur moyen de l'écarter de Peking, où il pouvait être gênant ces jours-ci. C'est un bon soldat. On l'envoie se faire tuer ailleurs. Le ton, le regard, la formule sont d'une telle décision que je n'ai plus qu'à m'incliner. Ces Mandchous sont décidément d'habiles politiques, et René Leys le plus adroit de leurs jongleurs de théâtre. 22 octobre 1911. Pourtant, il m'arrive assez inquiet aujourd'hui. Pourriez-vous me garder un peu d'argent? Oh, c'est facile. Mais les banques européennes, je ne veux pas être connu. J'aime mieux vous remettre ceci. C'est tout ce que j'ai pu sauver de la banqueroute. Tout ce qu'il a pu sauver? Ce doit être considérable. C'est déjà trop. Ne serait-ce qu'1/10, et me voici responsable d'un dépôt. Il me tend une enveloppe chinoise en papier bleu à fleurs, assez pleine, et sort de sa poche un gros paquet lourd, enveloppé du fameux mouchoir de soie rose. « Bien, je vais vous donner un reçu. Quel chiffre ?» Il insiste pour que nous recomptions de pair. Il y a 48 dollars en argent, piastre du Tchéli, 28 billets de 5 dollars de la banque Hong Kong et Shanghai, dont 15 émissions de Tianjin et 13 émissions de Peking. En tout, 188 dollars, à peu près 400 francs. Et voilà tout ce qui reste de ces fabuleux appointements. Voilà les quelques sapèques sauvés. Mais de quelle immense banqueroute ! Monnaire, impoliment déçu, le force à s'expliquer. Voilà ce qui est arrivé la nuit dernière. Les nouvelles de la rébellion du centre sont telles que toutes les banques chinoises de Shanghai ont sauté. Vous leur aviez confié, pas à elles, mais à leur commanditaire de Peking. Songez donc, il me donnait 24% par an. Et Peking a sauté aussi. Vous ne pouviez pas le prévoir seulement la veille, juste le temps. Qu'est-ce que vous faites à votre police ? Je l'ai su avant n'importe qui. Une grande flamme orgueilleuse, celle des meilleurs jours, passe dans ses yeux que je reconnais tout entier. C'est moi qui avais reçu l'ordre de déclarer la faillite et d'arrêter d'abord les banquiers. Vous l'avez fait ? Oui. Cette nuit, 5 de mes hommes et moi, on s'est battu. Et vous y avez tout perdu ? Et j'ai gagné un bon coup de pied dans le ventre. J'ai très mal ici. Ses yeux s'éteignent. Les prunelles chavirent. Il va tomber. Il se redresse. Allons, tout est à recommencer. Il refuse de s'allonger, de s'étendre, de se mettre au calme avec de la glace sur le ventre, comme on doit le conseiller, je crois, en pareil cas. Il s'en va, d'une allure presque négligente même, à recevoir le reçu que je lui tends. 28 octobre 1911. Je viens de me heurter au détour de ma rue, de notre rue, au gros rire et à la face encombrante de mon voisin Jarignou. Impossible de lui tourner le dos. Ce serait fuir devant lui et céder le terrain. Impossible d'espérer qu'il ne m'arrête pas jovialement au passage. Et j'ai fort envie de savoir comment il va prendre ceci. Cette lettre un peu sale que j'avais mise, après désinfection, en réserve dans ma poche, précisément pour la joie de ce moment-ci. Je la lui déchiffonne avec soin. « Ah, vous l'avez gardée ? C'est pas prudent. Je me suis permis de ne pas me compromettre. Vous auriez pu être gêné pour m'en parler. Mais vous pouvez déchirer ça. Je vous remercie de l'avoir secoué, ce garçon-là. Il m'a payé 2 jours après. » Et, pris d'une soudaine bonhomie, il a peut-être eu bien du mal. Ce garçon n'a plus un sou. Il a dépensé en fille tout ce qui lui restait des appointements de l'école, qui est fermée et qui ne rouvrira pas de sitôt grâce aux camarades socialistes de canton. Tous ses élèves ont déjà foutu le camp à Wuchang comme apprenti révolutionnaire. Et puis, voilà qu'on dit que le père Yuan remonte sur Peking. Je ne donnerai pas une piastre de la peau d'Aristo du régent. Ça fait plaisir de voir un beau pays, et riche alors, s'ouvrir aux lumières du progrès. Je froisse et déchire avec un mépris ostensible la lettre, cause de l'entrevue, et prends un congé que je crois définitif. Ce futur électeur chinois me semble bien peu renseigné sur le sens politique de la rentrée de Yuan. Nous savons bien, et malgré moi j'entends le timbre habituel et assuré de la voix de Leys, Nous savons bien que nous lui avons donné l'ordre de gagner son poste au plus vite, à la tête des troupes des provinces, afin de l'écarter de la capitale. Que Yuan Shikai remonte sur Peking, encore une histoire de naturalisé pontant sur sa venue et désireux de reprendre ses bassesses autour de lui. 10 novembre 1911. Oh, du nouveau, enfin, parmi la caste mandchoue. Maître Wang, disparu depuis 2 mois de vacances policières, me revient, parlant à voix basse, sa bonne figure énergiquement effrayée. On a, paraît-il, une peur extraordinaire au palais. On ne sait pas exactement de quoi, et s'il faut craindre que Sun Yat-sen ne remonte tout à coup le canal impérial de Hangzhou à Tianjin à bord d'un vaisseau de guerre japonais, ou bien qu'un perpétuel descendant des Ming ne se fasse sacrer empereur à Nanking. On craint que la Mongolie n'aille porter ses tribus en Russie, que les Français ne divisent le Yunnan en départements, et que les fleuves gelés dans le nord ne se mettent à fondre. On a vu des signes dans le ciel. Un dragon sans tête, coiffé d'un chapeau de feutre noir, de la forme du melon d'eau, et une tortue jaune écorcée, revêtant un complet européen. Alors, les mesures traditionnelles commencent. On a payé 2 mois de solde en retard à la garde impériale. On a licencié 300 eunuques. La princesse, épouse du régent, boucle ses paquets et veut fuir. Elle ne sait point vers où. À Jeol, dans les montagnes nord, sans doute. C'est l'abri familial, dans tous les cas, de grandes débâcles. Et vous, maître Wang? Maître Wang ne tient pas à fuir, mais simplement à déménager. Il m'aide à comprendre que, dans le cas d'une émeute à Peking, sa vie, très compromise de par la coiffure et la race de son épouse, se trouverait fort poliment en sûreté chez moi. Oh, un simple logis dans les dépendances. Je demeure embarrassé. Je ne dispose vraiment que d'un seul corps de bâtiment, celui du sud. Vous voyez, c'est la chambre de M. Lei. Il est vrai qu'il n'y vient plus souvent. Et je songe un instant à prier ce brave René Leys de me permettre d'abriter à sa place un couple infiniment plus en danger que lui, quand je réfléchis que lui-même est plus exposé que tous, le chef d'une police secrète, s'il ne démissionne ou ne disparaît à temps, est le premier à laisser en gage sa personne dans ces jeux antidynastiques. Les risques, peut-être imaginaire ou grossi, dont il avait peur, ne sont rien à côté de ceux qu'on devine. Maître Wang, qui en fait partie, comprendra. J'explique donc. Je suis au regret, mais les hautes fonctions de M. Lei, devenant fort dangereuses pour lui, je tiens à lui conserver cet asile chez moi. Wang fait un peu l'étonné. Un Européen n'a rien à craindre, même s'il est professeur à l'école des nobles. Je veux parler de ses hautes fonctions à la police secrète. Au moment où chacun doit se compter dans notre clan, il n'y a plus de prudence à garder. Je mets donc l'infime policier, maître Wang, au courant des derniers titres officiels de René Leys et de quelques-uns de ses plus avouables exploits. Maître Wang prétend tout ignorer. « Il y avait bien, dit-il, un étranger employé dans cette confrérie, mais avec un grade inférieur. C'était un Allemand. On l'a convaincu de vol et chassé. Le chef actuel est un Pékinois nommé Xiu. » Maître Wang est lui-même un fort bon policier, secret et discret, qui ne trahit point, même pour moi, ses patrons. S'il savait que je sais tout, et, comme le phénix, bien d'autres choses encore. Nous convenons de lui aménager un recoin qu'il découvre derrière mes bâtiments de l'ouest, où j'ignorais ce prolongement, dont il s'arrangera, dit-il, ainsi que Madame Wang, sans nous compromettre. Un mot de plus. Qu'est-ce qu'on dit, parmi ses amis mandchous, du retour en grâce du chinois Yuan Chekai? Rien. On n'en dit rien. La chose a passé parmi les nominations quotidiennes. Il est maintenant à la guerre, dans le sud. Quand l'affaire sera finie, on lui donnera un témoignage de satisfaction.